Bonjour à chacune, à chacun. Nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 17 du livre des Actes, que je vous invite à ouvrir à nouveau. Voilà Paul dans l'une des villes les plus célèbres du monde, Athènes. Et si on a quelques vagues souvenirs de ce qu'on a appris dans notre cursus scolaire, on se souvient que, voilà, Athènes et dans la Grèce, c'est un petit peu le cœur de la philosophie qui a façonné d'ailleurs notre Occident. Et Paul va se retrouver face à toutes ces personnes qui, à la fois, sont férues de philosophie, avec des philosophies de vie diverses, variées, parfois opposées, et puis à la fois des gens très religieux, très croyants. Et la mission que Paul a reçue de la part de Dieu, c'est de faire passer les nations des ténèbres à la lumière. Amen. Et c'est la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile pour faire passer des hommes et des femmes des ténèbres à la lumière. De l'emprisonnement à la liberté. Alors, si Dieu a donné l'Évangile au monde, et qu'il l'a donné pour tout le monde, on peut se poser la question, mais le monde est-il préparé pour recevoir l'Évangile ? Et nous allons voir ce matin que parce que Dieu a donné l'Évangile au monde, il a aussi préparé le monde à recevoir l'Évangile. Commençons par mentionner dans ce texte d'Actes 17 cette magnifique expression que nous trouvons au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Magnifique expression. Tous les hommes issus d'un seul sang. Il n'y a pas des races inférieures, des races supérieures, des origines plus nobles, d'autres plus méprisables. Ici, Paul rappelle de la part de Dieu aux Athéniens l'origine de l'homme. Et que tous les hommes sont issus d'un seul sang. De la même lignée. Et nous voulons le rapprocher de ce verset bien connu de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le monde, quiconque, pour chaque homme, chaque femme, parce que chaque homme et chaque femme sont issus d'un seul sang à l'origine. Tous frères de sang. Et ce monde que Dieu a aimé et qu'il veut sauver par Jésus, cet évangile qu'il a préparé, il n'est pas pour quelques privilégiés qui ont une identité religieuse, qui ont une identité culturelle ou géographique, ou ethnique, ou philosophique, ou quoi que ce soit, il est pour tous. Et parce qu'il est pour tous, eh bien, Dieu a préparé chacun à recevoir l'Évangile. Alors nous trouvons au début de ce texte, de cette partie athénienne du chapitre 17, l'irritation de Paul. Au verset 16, Paul attend et puis il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Quelques écrivains grecs de l'époque ont écrit que on rencontrait à Athènes plus d'idoles que de personnes. Et il y en avait des centaines et des centaines d'autels avec des statues, avec des inscriptions, avec des temples. Et voilà une irritation intérieure de l'apôtre Paul à la vue de tous ces faux dieux qui voilent l'image du vrai Dieu, contre tous ces mensonges qui cachent la vérité. Et Paul, effectivement, face à cette prolifération de mensonges qui trompent le cœur de l'être humain, il est irrité. Est-ce que nous ne sommes pas parfois irrités face à tous les mensonges qu'on peut entendre et qui troublent et qui trompent l'âme des hommes et des femmes et qui les détournent de Dieu, de la repentance, de la réconciliation. Y compris des mensonges dans le monde dit christianisé, ou dans le christianisme, où l'on va, là encore, par des idoles, ou un enseignement trompeur, qui a la forme de Dieu, d'un Dieu, mais qui, comme Paul l'écrira aux Romains, rend la vérité captive, maintient la vérité captive. Et l'Épître aux Romains nous dit que la colère de Dieu se révèle justement contre tous ceux qui tiennent et qui maintiennent cette vérité captive. Alors, une irritation contre tous ces mensonges qui prolifèrent, mais aussi une irritation contre cette capacité que nous avons à préférer les mensonges à la vérité. Vous avez remarqué combien nous, en tant qu'êtres humains, c'est vrai qu'on peut être longtemps trompé, mais sans doute parce qu'on préfère être trompé. L'évangile de Jean nous dira pourquoi. Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et le problème de la vérité, pourquoi préfère-t-on des mensonges à la vérité? C'est parce que la vérité qui concerne le seul vrai Dieu dont Paul va parler, malheureusement c'est qu'à un moment cette vérité est une vérité qui fâche. Parce que cette vérité, c'est d'abord la vérité sur moi-même. Dieu, dans la vérité qu'il me dit, va me dire des choses sur moi-même qui ne vont pas me plaire. Et ça, c'est une vérité que je fuis. Ah, entendre des choses sur moi-même qui ne me caressent pas dans le sens du poil, très peu pour moi. Et nous sommes tous avec cette réaction première. Mais en même temps, que le message de la vérité, lorsque Jean dit la Il dit que la vérité vint par Jésus-Christ, mais il dit la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Parce que la vérité de Dieu s'accompagne toujours de sa grâce, de son amour, de sa bienveillance. Et c'est formidable finalement d'être confronté à la vérité sur soi. Nous le trouvons en Jean 8, 32. Prenez avec moi Jean 8, 32. Évangile de Jean, chapitre 8. Jésus a une discussion avec des religieux. Une discussion animée d'ailleurs. Et nous lisons ensemble au verset 32, il dit à certains qui semblent adhérer à son enseignement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou autrement dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle est leur réaction? Ils disent, ben, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et malheureusement, la réaction face à cette vérité qui fâche et à cette proposition d'être libéré, c'est une proposition qui est refusée. Et le verset 44 est sévère. Déjà au verset 43, il dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, mais parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est terrible. Et pourtant, de nombreux hommes et femmes viennent à la lumière. Accepte que ce chemin intérieur se fasse. Petit à petit, accepte de faire face à la vérité sur soi-même. C'était le cas de l'apôtre Paul. Nous en avons bien parlé lors du chapitre 9. Cette conversion de l'apôtre Paul, toute une histoire d'un cheminement intérieur. Pour accepter de se voir dans la réalité de ce que nous sommes. Paul se voyait comme quelqu'un de formidable, un bon croyant, zélé pour Dieu. Et puis un chemin intérieur de vérité s'est fait petit à petit en lui, jusqu'à ce qu'il se voie tel qu'il était réellement, et il dit « J'étais un homme violent. Je respirais le meurtre. » C'était ça la réalité. Et nous avons tous besoin, en tant qu'être humain, de venir à la vérité, à cette vérité qui fâche, mais à cette vérité qui libère. Et il n'y a pas de second chemin pour pouvoir être réellement libre. Il faut d'abord être fâché. Peut-être contrarié. Il y a ce moment un peu pénible d'être face à soi-même, face à ce qui est réellement, ce qu'il en est de nous-mêmes. Mais quand on passe par là, en même temps, alors on saisit la vraie liberté et la grâce et le pardon de Dieu et la restauration, parce qu'il fait de nous des nouvelles créatures. C'est vrai à la conversion, lorsqu'on passe des ténèbres à la lumière, lorsqu'on passe de la mort à la vie, ce moment où l'on décide de suivre Jésus-Christ. Mais c'est vrai aussi ensuite, lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous met face à des vérités qui fâchent et nous esquivons. Il nous arrive de continuer de préférer les ténèbres à la lumière en tant que chrétien. Et le Saint-Esprit frappe à la porte. Malheureusement, quand on préfère en tant que chrétien toujours cette fuite et qu'on esquive et qu'on ne veut pas entendre cette vérité qui fâche, mais en fait, on n'est pas réellement libre. Et dans notre âme, on le sait. Et parfois, on porte encore certaines chaînes. Et le Seigneur veut nous en libérer. Il est celui qui affranchit. Amen. Et voilà Paul qui, à Athènes, a ce ministère de faire passer des hommes et des femmes captifs des ténèbres à la lumière. Paul, s'il est irrité face à ces mensonges qui voilent la vérité, ne laisse cependant pas cette irritation l'irriter contre les gens. Il n'est pas irrité contre les gens. Et parfois, si nous sommes agacés de tout un tas de choses issues de la tradition, issues des religions, issues de la philosophie, issues de ce qu'on a appris à l'école, et qui sont des raccourcis mensongers face aux vérités qui libèrent un cœur, si ça nous agace, si ça nous irrite, ne nous laissons jamais porter à être irrités contre les gens. Souvenons-nous, comme Paul, combien nous aussi, nous nous sommes laissés tromper. Comment nous aussi nous avons participé à nous laisser tromper parce que d'une certaine manière nous préférions les ténèbres à la lumière. Mais l'appel de Dieu est là. Et le cheminement intérieur se fait petit à petit. Et les forteresses, les unes après les autres, tombe jusqu'à la capitulation. C'est ce qui s'est passé pour Paul. Et il se souvient comment pour lui aussi Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. C'est le verset 30 de notre chapitre, acte 17-30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Nous trouvons cela pour Paul en 1 Timothée 1:13. 1 Timothée 1:13, Paul nous livre cela. Voici ce qu'il dit. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Vous avez vu le regard maintenant juste qu'il a sur lui-même ? C'était pas le cas avant. Hein. Avant, il se prenait pour quelqu'un de bien. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Dans l'incrédulité. Oui, Paul a ce regard maintenant tout neuf sur lui-même, le regard de Dieu. On dit, oula, oula. Mais, il y a la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, pour moi aussi, ne tient pas compte de mon temps d'ignorance. Et il en va pour chacun de nous de la même manière. Alors ne nous impatientons pas. Parfois, nous sommes impatients, on dit, mais c'est pas possible, je ne comprends pas qu'ils comprennent pas et qu'ils restent bloqués. Comment fait-il pour ne pas accepter la vérité des choses? Elles sont tellement évidentes. Il est passé par ceci, il est passé par cela. Et pourquoi est-ce qu'il résiste encore au Seigneur? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. Et Dieu passe par-dessus les temps d'ignorance. Mais apportons, comme Paul, le message de la vérité. Alors, contre l'ignorance. On se dit, mais est-il possible finalement de vaincre cette tromperie, de vaincre ces idoles qui cachent la face de Dieu, ces faux enseignements? Est-ce que Dieu a prévu quelque chose contre l'ignorance? Alors, nous allons voir ce matin qu'il a prévu deux choses. Et c'est vrai à Athènes, et c'est vrai pour nous, et c'est vrai dans l'histoire. Dieu se révèle. Face à l'ignorance, Dieu laisse sa trace. Et il laisse deux traces. La première trace, c'est ce qu'on appelle la révélation générale de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, Paul l'exprime en disant : ils sont donc inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme tel. Et il dit : en quoi est-ce qu'ils ont connu Dieu ? Mais il dit, mais sa divinité, sa puissance éternelle, ben, ça se voit comme à l'œil nu quand on le considère, depuis la création du monde, quand on considère dans ses ouvrages. Il dit, au travers de la création, au travers de la nature, au travers de la complexité de ce qui existe, ne me dites pas qu'il n'y a pas la trace de Dieu. Comment expliquer la moindre étincelle de vie? On cherche encore. On élabore des hypothèses. Mais on est stupéfait face à l'existence des choses. Comment passer de rien à quelque chose? Comment passer de l'absence de vie à la vie? Comment passer du néant à la parole, à l'intelligence, aux émotions? Et c'est ce que Paul dit ici, en appelant Dieu Théos, un terme que les grands philosophes comme Platon ou Aristote ont employé, au-delà de toutes ces centaines d'idoles qui pullulaient, ils parlaient de ce Dieu tout-puissant au-delà de tous les dieux, Théos. Et au verset 24, c'est ce que Paul dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Tout ce qui est, tout ce que nous sommes, tout ce qui existe dans sa complexité, dans sa beauté et sa diversité, n'est pas le fruit du hasard, du chaos ou du néant, mais d'un auteur qu'il a voulu et qu'il a fait. Et tous à l'intérieur de nous-mêmes, nous le savons. La révélation générale de Dieu. Ne voit-on pas Dieu dans une fleur? Ne voit-on pas Dieu dans les paysages qu'il a créés, dans l'immensité de l'univers, dans les détails d'un flocon de neige? Et puis il y a la révélation spéciale de Dieu. D'abord une révélation générale, mais on peut se dire que ce n'est peut-être pas suffisant. Alors Dieu se révèle tout spécialement dans notre parcours, dans notre histoire, dans notre identité culturelle, religieuse, personnel, familial. Je ne sais pas comment vous avez rencontré Jésus-Christ, mais ça a été la conjonction de cette révélation générale de Dieu, mais aussi de cette révélation toute spéciale à vous. Et ici, pour les Athéniens, nous avons une révélation toute spéciale que Dieu a préparée. Est-ce que l'Évangile est pour tout le monde ? Oui. Est-ce que Dieu a préparé le monde à l'Évangile ? Oui.
Oui.
Oui. Et ici, nous avons un épisode assez surprenant. C'est l'épisode de cet autel au Dieu inconnu. Dans Athènes, parmi les centaines de temples dédiés à des idoles et à divers dieux, il y a un autel sans statue, sans rien, sans temple, mais avec une inscription au Dieu inconnu. Et Paul arrive en disant, ce Dieu inconnu que vous révérez, c'est celui que je vous annonce. Alors, d'où vient cet autel au Dieu inconnu ? Est-ce qu'il sort de nulle part ? Est-ce qu'il a une histoire ? Alors oui. C'est une histoire, l'histoire de cet autel inconnu qui nous est bien connue par les écrits grecs. Parce que cet autel au Dieu inconnu a été dressé 6 siècles avant Jésus-Christ. Nous trouvons son histoire dans les récits écrits par un philosophe grec 3 siècles avant Jésus-Christ et qui s'appelle, comment il s'appelle déjà ? Je reprends mes notes. Diogène Laërte, voilà. Et il a écrit la vie des grands philosophes. Donc il récapitule 3 siècles avant Jésus-Christ tous les grands philosophes grecs qui ont vécu, existé, et il raconte leur histoire. Et il va raconter la vie d'un philosophe poète et en même temps un petit peu sorcier qui s'appelle Épiménide. Et nous trouvons dans l'histoire d'Épiménide cet épisode à Athènes. Que s'est-il passé 6 siècles avant que Paul arrive en disant « Cet autel du Dieu inconnu, ce Dieu inconnu, c'est celui que je vous annonce. » Eh bien, 6 siècles avant Jésus-Christ, la peste s'abat sur Athènes. Une peste qui fait des ravages et on offre des sacrifices aux centaines de dieux qui sont dans la ville d'Athènes pour apaiser la colère d'un dieu qui serait en colère et qui envoie la peste. Et rien ne marche. Et la peste continue de tuer la population. Et ceux qui connaissent un petit peu la religion grecque savent qu'ils avaient des oracles. Les oracles, c'était ces prêtresses qui prédisaient des choses, ou qui prophétisaient en quelque sorte. Et dans l'histoire de cette peste à Athènes, l'oracle va dire la chose suivante, voilà, cette peste, c'est la punition de ce qui s'est passé il y a 30 ans, lorsque le roi Mégaclès a fait assassiner tous les partisans de je ne sais plus quelle personne. Et tous ces assassinats, eh bien nous portons aujourd'hui la malédiction sur nous. Alors historiquement, cette malédiction a été appelée la malédiction des Alcémonides, parce que c'était la famille du roi Mégaclès qui avait fait assassiner ces personnes. Et l'oracle d'Athènes va dire, voilà, il faut chercher un certain Épiménide en Crète et le faire venir ici à Athènes. Et lui, il nous dira ce qu'il faut faire pour que la peste puisse cesser. Donc tout ça, on le trouve dans les récits grecs. Et donc, c'est un certain Nicias, on a même le nom de celui qui va aller chercher, Épiménide. Épiménide qui, je vous le disais, était une sorte de chaman, sorcier, etc. Vous voyez dans l'Ancien Testament Balaam ? C'est à peu près la même chose. Hein ? Sorte de devin, sorcier, etc., poète, philosophe, comme Balaam. Et que Dieu, comme Balaam, va utiliser pour préparer le monde à l'évangile. Et Épiménide va donc venir en bateau jusqu'à Athènes. Et il va demander qu'on amène tout un troupeau de brebis blanches et noires. Et à la fin, alors que ce n'était pas l'heure où normalement les moutons se couchent, mais là où ils s'agitent de part et d'autre, certains vont rester couchés sur le flanc. Et aux endroits où les moutons vont rester couchés sur le flanc, on va dresser les autels aux dieux inconnus. Et Épiménide dit, voilà, je ne sais pas quel est ce dieu, et les Athéniens veulent un nom. Ils disent non. On est ignorant. Mais ce que je sais, c'est qu'il est suffisamment bon pour pardonner si on l'honore. Et donc, au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Athéniens vont dresser ces autels aux dieux inconnus, un fait rarissime, hein, et la peste va s'arrêter. Et donc, dans l'histoire des Athéniens, cet autel au Dieu inconnu n'est pas anodin. C'est ce Dieu dont on ne connaît pas le nom et dont on ne fait pas de représentation, mais qui nous a pardonné. C'est ce Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, de toutes les idoles qui ont été impuissants face à cette peste. C'est ce Dieu qu'on aimerait peut-être bien connaître, mais qu'on ne connaît pas. Et l'inscription au Dieu inconnu reprend l'expression, le mot de Platon et d'Aristote, c'est Théos qui est écrit sur l'autel. Théos. Le Dieu vrai Dieu. Quand Paul trouve cet autel au Dieu inconnu, il est probable qu'il en connaisse l'histoire, puisqu'il connaît Épiménide, puisqu'il cite dans ce passage à Athènes dans l'Areopage Épiménide. Lorsque il est dit au verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. L'expression « car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être » est une citation littérale d'Épiménide. Cet Épiménide qui est intervenu comme Balaam en son temps pour planter la trace de Dieu dans le cœur des Athéniens, de ce Dieu vrai Dieu, de ce de très Dieu, et qu'un jour ne restera pas inconnu, mais qu'on pourra connaître. Et l'exemple d'Athènes n'est pas le seul exemple dans l'histoire de tous les peuples, de toutes les ethnies. Nous retrouvons dans leur histoire des traces, ces révélations spéciales que Dieu a planté dans ces civilisations pour qu'on puisse, le moment venu, accueillir l'Évangile et se tourner vers lui. Ce formidable livre retrace un petit peu les exemples dans l'histoire et dans les différentes ethnies, les différents peuples, de ces traces que Dieu a laissées et qui ont préparé le cœur à l'Évangile. L'éternité dans leur cœur de Don Richardson. Vous pouvez vous le procurer, c'est très intéressant à lire. Alors, voilà Paul à Athènes, face à toutes ces idoles, ces faux dieux, face à ces mensonges qui cachent la vérité. Et nous, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut passer des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance du seul vrai Dieu? Eh bien, appuyons-nous sur le fait que Dieu, certes, a voulu qu'on le cherche et qu'on s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Révélation générale. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De lui, nous sommes la race. Il nous a créés à son image. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il nous a créés à son image. Il a laissé sa trace. Ça, c'est la révélation générale. Mais il y a aussi cette révélation spéciale. Dieu a pris soin que dans notre histoire et dans l'histoire de chacun des êtres humains qui nous entourent, il y a un accès, il y a une trace toute spéciale pour qu'on passe des ténèbres à la lumière, pour qu'on puisse passer par-dessus ces mensonges dont la force est impressionnante. La force de captivité. Mais la vérité nous affranchit. Et pour chacun d'entre nous et de ceux qui nous entourent, le Seigneur a préparé une trace, un pont, pour qu'on puisse passer des temps d'ignorance à la connaissance de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de formidable pour nous lorsque nous parlons de Jésus-Christ autour de nous. Nous pouvons nous appuyer sur la révélation générale de Dieu, la création, l'identité de l'être humain, en tant qu'image de Dieu, fait à l'image de Dieu. C'est une trace qui est là. Comme en Romains, on peut préférer autre chose à cette connaissance intuitive de Dieu, parce qu'on préfère les ténèbres à la lumière. Mais il y a cette trace qui est là. Et puis il y a cette révélation spéciale. Sachant que dans le cheminement intérieur vers Jésus-Christ, pour chacun, Dieu a préparé un élément, une révélation spéciale pour qu'il puisse venir à Jésus-Christ, pour qu'il puisse croire en lui et lui donner son cœur, sa vie. Alors, nous voyons à la fin de ce chapitre que tous ne se tournent pas vers Jésus. Tout d'un coup arrive le sujet de la résurrection des morts. Paul en arrive à parler de Dieu fait homme, Jésus, qui a vaincu la mort, qui est revenu à la vie. Et lorsqu'ils entendent parler de la résurrection, alors là, ils disent « Oh là là, la résurrection !» C'est incroyable comment on est prêt à croire à toutes sortes de choses, mais effectivement pas à la résurrection. On est prêt à croire que de rien est sorti quelque chose, on est prêt à croire qu'une cellule est devenue finalement un poisson qui s'est peut-être transformé en mammifère. Je ne sais plus quel est l'ordre des choses. Et puis que ce mammifère un jour est devenu un être humain. Ça s'appelle la théorie de l'évolution. On est prêt à croire à des transformations incroyables. Mais par contre, que quelqu'un qui était mort redevienne vivant, ça semble trop. Là, on nous demande trop. Il n'y a pas un problème. Vous voyez ? Quand on pèse les choses, est-il plus difficile de croire que quelqu'un qui a toutes les fonctions nécessaires à la vie puisse mourir puis revivre? Tout est en place, hein, organiquement. Et ça, c'est trop difficile à croire. Par contre, que un être qui a un ADN complètement différent puisse muter, évoluer. Alors ça, on dit, ouais, non, ça, je pense que c'est possible. Avec quelques millions d'années, on peut, ça doit marcher, ce truc-là. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Alors, les uns lui disent, bon, écoute, on t'entendra une autre fois. Mais quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Ceux dont le cœur veut se réconcilier, ceux dont le cœur est prêt à voir la vérité sur eux-mêmes, une vérité qui fâche, mais une vérité qui libère. Ceux-là se tournent vers Dieu dans la repentance. Il dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Oui, ils sont prêts à faire face à cette vérité qui fâche tout en sachant qu'il y a un Dieu d'amour qui les accueille, qui les pardonne et qui va leur permettre de vivre en nouveauté de vie. Une vie construite sur d'autres bases. Une vie construite sur Jésus-Christ. Et ça transforme tout. Alors, proclamons l'Évangile. N'ayons pas peur de parler de Jésus aux autres, parce que c'est Jésus lui-même qui a préparé les cœurs pour être reçus. Il a préparé ce qu'il faut à nous de prêcher la parole. Elle sera reçue, elle ne sera pas reçue. Mais il ne manque rien. Il ne manque rien. Le Seigneur a prévu. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que dans ce travail d'évangélisation, tu ne nous laisses pas seuls, sans outils. C'est toi-même qui as préparé le monde à l'Évangile et parfois des siècles avant, tu as laissé ta trace. Une trace qui surgira au moment où tu voudras te révéler dans les cœurs. Alors Seigneur, que nous ne nous décourageons pas, mais que nous allions en parlant de toi, en t'annonçant, conscient que c'est un cheminement souvent long. Mais nous que nous puissions, Seigneur, ne pas nous impatienter, mais continuer d'être ces missionnaires, ces porte-paroles qui supplient le monde d'être réconcilié avec toi. On veut, Seigneur, te remercier parce que tu es ce Dieu qui nous dit la vérité avec amour. Cette vérité, Seigneur, parfois nous la fuyons. On ne veut pas y être confronté. Mais tu la ramènes sous nos yeux, pour notre bien, parce que c'est la vérité qui nous libère. Alors, nous voulons, Seigneur, ce matin, te laisser agir, te laisser nous montrer par ta vérité ce qui dans nos cœurs a besoin d'être changé. Ce qui nous est dommageable, afin que tu puisses agir et transformer et nous libérer de ces chaînes que nous gardons peut-être encore. Merci parce que tu es ce Dieu qui libère et qui nous aime. Merci parce que tu ne tiens pas compte, tu passes par-dessus nos temps d'ignorance pour nous amener à la connaissance de Christ, cette connaissance qui vivifie et qui marque, Seigneur, un tournant décisif à chaque fois que nous nous décidons pour toi, à chaque fois que nous décidons de t'obéir. Il y a un tournant, et il y a une victoire, et il y a une joie. Merci pour cela, au nom de Jésus. Amen.